Bien, s'il vous plaît, nous allons commencer. Les deux dernières séances, qui étaient les séances introductives de ce nouveau cours, portaient un peu sur la géographie humaine, sociale et l'organisation sociale des provinces arabes de l'Empire ottoman dans la période dite classique de l'histoire ottomane, c'est-à-dire allant jusqu'au début du XVIIIe siècle. Je vous avais rappelé que la Méditerranée était un espace aussi bien d'affrontements que d'échanges et que finalement, après les grands affrontements du XVIe siècle, représentés le siège de Malte, la bataille de Lépante, etc. On a plutôt un équilibre méditerranéen qui s'est établi avec des renforcements des relations commerciales. Alors qu'il faut dire que l'Empire ottoman, reprenant une pratique datant de l'époque byzantine, avait ouvert un certain nombre de places de commerce aux marchands européens. Ces places de commerce sont appelées des échelles. Alors, il y a les échelles du Levant, et puis pour le Maghreb, les échelles de Barbarie. Comme on l'avait vu pour le cas français, Marseille avait le monopole des relations avec les échelles. Ce qui faisait que la nation française, c'est-à-dire la communauté française, d'une échelle, était regroupée autour de son consul. Alors là, vous avez un célèbre tableau qui est un témoignage historique absolument capital, puisque c'est en 1768, au lendemain de la guerre de Sept Ans, la France fait une démonstration de force pour dire qu'elle n'a pas été si affaiblie que ça par la guerre de Sept Ans. Et donc, elle envoie une escadre française qui fait le tour des échelles du Levant. Ce qui nous vaut, c'est donc ce tableau représentant la nation française de Smyrne autour de son consul, recevant les représentants de la marine française, le prince de Listénois, lieutenant général des armées navales, commandant l'escadre du roi dans la Méditerranée. Voilà, et alors, bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous avez le détail avec le rôle de chacun. Là, ce sont les janissaires du consulat. Le consul, il est où? Attendez, j'essaye de le retrouver. 12, numéro 6, c'est 12 janissaires. Et 4 du consul qui font 16. Donc, il y a 12 janissaires fournis par l'autorité locale et les 4 janissaires du consul de France qui forment ce groupe de janissaires qui est là. Alors, les Français, on les voit plus loin. Ils sont au numéro 10. Et curieusement, ici, ce sont tous les cortèges d'apparat ottoman pour l'arrivée des Français. Et puis, les Français, ils sont là. Dans le tableau, etc. Donc, ce tableau qui est célèbre pour son intérêt strictement documentaire, évidemment, puisqu'on a la représentation d'une nation française, celle de la nation française de Smyrne. Donc, notez, parce que c'est un problème qui va se poser en plus de compréhension de vocabulaire, au XVIIIe siècle, nation signifie tout simplement communauté. Et donc, la nation française, ça peut être 30 personnes. Mais du coup, ça explique pourquoi on parle aussi à côté de la nation maronite ou de la nation grecque qui peuvent, elles, comporter un plus grand nombre de personnes. Nation jusqu'à la Révolution française et au-delà, nous aurons l'occasion d'y revenir, signifie aussi bien communauté que le mot nation que nous connaissons maintenant. Alors, ces échelles étaient évidemment régies par les traités de commerce que l'Empire ottoman avait fait avec les puissances européennes. Ces traités de commerce sont entrés dans l'histoire sous le nom de capitulation. Mais capitulation, ainsi le sens étymologique du terme. Capitulation, c'est simplement chapitre. Même si, évidemment, comme nous le verrons au XIXe siècle, les capitulations deviennent des privilèges, ce qui explique pourquoi ensuite, dans la langue arabe, on les appellera des imtiyazat, des avantages. Originellement, c'est simplement des chapitres du traité de commerce. À Constantinople, nous avons des ambassades des puissances européennes, des ambassades permanentes. Et dans les échelles comme à Constantinople, à côté des consuls et des ambassadeurs, il y a les drogmans, ces traducteurs, qui forment un personnel permanent. Au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, les revers qui avaient suivi l'échec du siège de Vienne avaient été progressivement effacés par les Ottomans, qui, semble-t-il, dans les premières décennies du XVIIIe siècle, avaient réussi à bloquer la pénétration autrichienne et russe dans les Balkans et en mer Noire. Ce qui fait que dans la géopolitique européenne, l'Empire ottoman restait pour la France l'alliance de revers, celle qui bloquait la maison d'Autriche. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des problèmes entre la France et la maison d'Autriche, et d'ailleurs le Saint-Empire romain germanique dans le cas précis, la France espérait que les Ottomans feraient leur rôle de puissance de revers. Problème, et comme vous le savez certainement plus, parce qu'on ne vous enseigne plus les bonnes données, durant la guerre de 7 ans, il y a ce qu'on appelait le renversement des alliances, qui fait que, donc la guerre de 7 ans, 1756-1763, tout le monde le sait ici. Donc dans cette guerre de 7 ans, la France renverse ses alliances et devient l'allié de la maison d'Autriche en Europe, ce qui conduira, comme vous le savez, a donné au petit-fils, ou petit-fils de Louis XV, une archidiocèse autrichienne comme épouse, Marie-Antoinette. Alors, si on fait un peu d'avance sur notre programme, on prête au sultan Selim III, au moment de la Révolution française, la proclamation de la République, la phrase historique peut-être apocryphe, au moins une république n'épouse pas une archiduchesse. En tout cas, si la valeur géopolitique de l'Empire ottoman semble avoir baissé avec le renversement des alliances lors de la guerre de 7 ans, très rapidement, l'Empire ottoman acquiert une nouvelle valeur comme barrière face à l'expansion russe, puisque au lendemain de la guerre de 7 ans, la stratégie française essayait de construire une barrière qui irait de la Suède, la Pologne, jusqu'à l'Empire ottoman pour bloquer la progression russe vers l'Ouest. C'est exactement ce qu'on appellera un siècle et demi plus tard ou deux siècles plus tard le containment des Américains. Et c'est la stratégie française passée 1763. Alors, aux alentours de 1750, l'Europe prend brusquement conscience qu'un écart s'est instauré entre elle et le reste du monde. Et là encore, la guerre de 7 ans est une guerre essentielle pour ça, puisqu'il y a des épisodes lointains de la guerre de 100 ans. Vous rappelez que les guerres européennes au XVIIIe siècle sont déjà des guerres mondiales, c'est la bataille de Plassey, dont vous avez ici une représentation, au Bengale, où les Britanniques détruisent l'armée du Nawab du Bengale, et ce qui fait que la Compagnie britannique des Indes devient une puissance territoriale qui, d'un seul coup, durant la guerre de 7 ans, s'empare de la totalité du Bengale. Pour la première fois dans l'Ancien Monde, les Européens passent des situations de comptoirs commerciaux à constitution d'un territoire. Comme en même temps, vous le savez tous, la guerre de 7 ans amène l'élimination française de l'Inde, les Britanniques vont commencer, après Plassey, à se lancer dans la conquête de l'ensemble du subcontinent indien, ce qui va rester pour tout le coup, jusqu'à la fin des quelques années à venir, une donnée absolument essentielle. Alors, rappelons que la supériorité européenne ne réside pas dans l'armement terrestre. Parce que toutes ces armées de l'Ancien Monde, tous ces empires à la poudre à canon, comme on dit, qui vont du Japon jusqu'à l'Europe de l'Ouest, the Gunpowder Empires, comme c'est l'expression des historiens américains, donc ces empires à la poudre à canon ont à peu près la même technologie militaire en 1750. Ce sont des armes à feu produites de façon artisanale. Le seul domaine où l'Europe a incontestablement une avance technologique absolument considérable, c'est la marine. Rappelons qu'il y a des navires européens dans les ports chinois et japonais, il n'y a pas de jonque chinoise à Londres. Tout ça, pour ceux qui essayent de discuter, il faut savoir quelles sont les raisons de la grande divergence. La grande divergence, elle repose déjà sur le fait que les Européens contrôlent les océans. Mais cette supériorité européenne réside sur la puissance de l'État moderne, issu, pour simplifier les choses, des guerres de Louis XIV. Cet État moderne en Europe a une puissance formidable de canalisation des moyens financiers par le biais de l'impôt et de projection d'armées permanentes à très longue distance. La guerre de 7 ans est la démonstration puisque des armées européennes se battent en Amérique et en Asie, pas seulement en Europe. Au-delà, l'État moderne européen se construit sur le fait qu'il s'appuie sur des populations qui sont de plus en plus alphabétisées, puisque sous Louis XV, on doit s'approcher d'une alphabétisation de l'ordre de 50% pour les individus mâles du Royaume de France. Et au-delà de l'alphabétisation, vous avez l'imprimerie, une administration compétente et efficace. Je vous rappelle que cette seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est le moment où les intellectuels européens des Lumières font l'apologie de l'État réformateur et productif, ce qu'on appelle le despotisme éclairé. Et donc, la tendance générale des États européens est la suppression progressive des distinctions de rang dans les sociétés pour arriver à une égalité fiscale entre tous les habitants du royaume. C'est ça le grand enjeu de l'époque, puisque sous Louis XV et Louis XVI, il y a ce qu'on appelle le despotisme ministériel, qui envisage un royaume de France où tous les sujets seraient égaux devant le roi et donc fiscalement traités de la même façon, alors que les corps divers, aristocratiques et autres, s'opposent à cette tendance à l'égalisation des conditions sociales, ceci qui va aboutir à la Révolution française, qui paradoxalement sera l'aboutissement de l'œuvre monarchique au sens de l'égalité des statuts. C'est la célèbre thèse de Tocqueville qu'il faut rappeler ici. Alors, l'Empire ottoman est donc l'alliance de revers. Et l'allié de la France, qui est l'Autriche, s'allie en pleurant, parce que Marie-Thérèse est une grande sentimentale, l'impératrice Marie-Thérèse. Elle est bien forcée de le faire, parce que c'est la Prusse et la Russie qui la forcent, à se partager la Pologne. Ce qui est évidemment une catastrophe pour la France, d'abord parce que nous avons des relations à vieille avec la Pologne, et ensuite parce que la Pologne est l'élément essentiel de cette alliance de revers qui va de la Suède à l'Empire ottoman. Et donc la France pousse l'Empire ottoman à intervenir pour sauver la Pologne lors du premier partage de la Pologne, ce qui est une catastrophe pour les Ottomans, puisque la guerre éclate en 1768 et c'est une suite de défaites ottomanes, en particulier l'arrivée de la flotte russe en Méditerranée passant par Gibraltar, vous dites la Baltique, qui passe entre en Méditerranée et qui détruit la flotte ottomane, vous voyez ici, la bataille de Çeşme le 6 juillet 1770. Çeşme, vous l'avez là en haut, et Placé à côté. Çeşme, c'est un peu l'équivalent de Placé, au sens... où Çeşme et l'entrée des Russes en Méditerranée semblent donner le signal de l'effondrement de la puissance ottomane, d'autant plus que le système ottoman était décentralisé. Un certain nombre de pouvoirs locaux ottomans s'allient avec les Russes, ou pactisent avec les Russes. C'est en particulier l'Égypte néo-mamelouque avec Ali Bel Kebir, mais aussi les Grecs du Péloponnèse, on dit à l'époque de la Morée, qui s'allient avec les Russes. Au passage, les Russes inaugurent ce qui deviendra un rituel jusqu'à aujourd'hui, à bombarder Beyrouth. Le premier bombardement de Beyrouth enregistré dans l'histoire, c'est le bombardement par la flotte russe en 1770. D'autres suivront. L'affaire va être réglée parce que l'essentiel, quand même, porte sur le khanat de Tartarie, qui est le khanat de Crimée, que les Russes occupent. Les armées russes entrent aussi dans les Balkans et pénètrent jusqu'à la Bulgarie actuelle. Et finalement, l'Empire ottoman est obligé de signer la paix de Küçükkanadjö, comme vous voyez ici en turc moderne, Küçükkanadjö, donc la petite fontaine, quelque chose comme ça. Cette paix est absolument essentielle. Pour deux clauses. La première, c'est qu'entre guillemets, vous voyez ici sur la carte en oblique, l'Empire ottoman est obligé de reconnaître la dépendance du khanat de Tartarie, des Tartares de Crimée, qui se trouve en fait sous occupation russe. Et la seconde affaire importante, c'est que dans les négociations de Küçükkanadjö, les Ottomans ont dit qu'ils ne pouvaient pas abandonner un territoire occupé, habité par des musulmans. Et les Russes ont dit que ce n'était pas vrai, et que d'ailleurs, ce n'est pas parce que le sultan est calife qu'il a tous les droits sur une région, puisque le califat est une dignité spirituelle et pas une dignité temporelle. C'est assez amusant, j'avais jadis publié une circulaire russe à destination de l'ensemble des chancelleries européennes pour définir ce qu'était le califat musulman du point de vue du droit international dans le cadre des négociations de Kutchuk-Karnadja. Toujours est-il qu'on reconnaît à l'Empire ottoman un droit spirituel non vraiment très bien spécifié, mais de nature califale, sur les musulmans de Crimée qui ne font plus partie de l'Empire ottoman. C'est-à-dire que pour la première fois, le sultan calife ottoman exerce une partie de son autorité sur des gens qui sont en dehors de son empire. Et en même temps, on est en train d'introduire ce qui sera un des grands thèmes du XIXe siècle, l'existence d'une virtualité de séparation entre le sultanat et le califat. Et les diplomates européens envisagent cette séparation entre le califat et le sultanat comme une séparation entre le spirituel et le temporel, parce qu'ils sont dans leur grille européenne. Le califat a été une autorité spirituelle et le sultanat une autorité temporelle. En même temps, les Russes, toujours à Kutchuk-Karnadja, utilisant une clause obscure du traité qui prévoit la liberté d'édification d'une église orthodoxe à Constantinople, interprètent cette clause comme leur donnant un droit de protection sur l'ensemble des orthodoxes de l'Empire ottoman, c'est-à-dire sur la majorité de la population de la péninsule des Balkans. En tout cas, en 1784, cédant spontanément à la volonté exprimée par les habitants de la Crimée, la Russie annexe la Crimée. Vous savez, généralement, les gens demandent spontanément d'être occupés par les Russes et ensuite, non moins spontanément, d'être annexés par eux. Et évidemment, l'Empire ottoman refuse de reconnaître l'annexion de la Crimée, qui cette fois n'est pas, est pour la première fois, une région habitée essentiellement par des musulmans, devient colonisée par les Européens. Alors, ce n'est pas exactement vrai, parce qu'il y a déjà les Tatars de la Volga qui se trouvent dans l'Empire russe, mais c'est le début de l'expansion européenne en terre d'islam. En même temps aussi au Bengale, puisqu'une partie de la population du Bengale est musulmane. La guerre d'indépendance des États-Unis, 1776-1783, fait ensuite clairement comprendre que l'histoire européenne de l'ancien monde, devenu le nouveau monde, pardon, est en train de se conclure, que les Européens sont condamnés à quitter le Nouveau Monde. Si vous lisez les textes des essayistes des années 1770-1780 en France, il est clair que la France va bientôt perdre ses colonies des Antilles et que les colonies espagnoles et portugaises deviendront indépendantes de la même façon que les colonies anglaises viennent de devenir indépendantes. C'est une réalité à peu près admise dans toute cette littérature des géopolitologues de l'époque. Le terme n'existe pas, mais les réalités existent. Mais en même temps, Placet et Chesmé ont montré qu'il n'y avait plus d'obstacles militaires forts face aux Européens dans l'Ancien Monde. Autrement dit, c'est dans la période entre Placet et Chesmé que commence le grand basculement. Le grand basculement qui fait que l'histoire européenne des Amériques est en train de se terminer et que l'Europe, qui va démarrer la révolution industrielle, donc cette Europe-là, réoriente son expansion vers la totalité de l'Ancien Monde. Ceci, en général, les historiens français ne vous en parlent pas beaucoup parce qu'ils sont tous hypnotisés par la Révolution française et qu'ils ne regardent pas le monde dans lequel se situe la Révolution française. Alors, dans les années 1780, en particulier en France, le débat fait rage dans la classe politique et intellectuelle. L'effet de savoir si l'Empire ottoman peut survivre ou non face à la menace russe et autrichienne. Tout le monde est d'accord pour considérer que l'Empire ottoman, dans l'état où il est, ne peut pas survivre. Soit il va s'effondrer, soit il faut le moderniser. Et en particulier, le grand ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, Vergennes, qui est un ancien ambassadeur de France à Constantinople, donc il connaît les réalités. Vergennes construit déjà un grand programme de réforme de l'Empire ottoman encadré par des missions de techniciens militaires et civils français destinés à moderniser l'appareil d'État ottoman. L'image qui est utilisée par les défenseurs de l'Empire ottoman est l'image du vieil arbre. L'Empire ottoman est un vieil arbre, mais s'il est correctement traité par un bon jardinier, il peut refleurir. En revanche, les adversaires de l'Empire ottoman disent que l'arbre est condamné et qu'il faut le laisser tomber. Alors, l'argument qu'avancent les adversaires de l'Empire ottoman, c'est que l'histoire européenne du Nouveau Monde est terminée. Et l'Europe va perdre ce qui est essentiel dans le Nouveau Monde, ses plantations de denrées tropicales. Thé, café, sucre, etc. Mais en perdant ses plantations américaines, l'Europe peut trouver des plantations de remplacement dans l'Ancien Monde. Et donc, pour ceux qui sont partisans d'un partage de l'Empire ottoman, on est encore dans la logique mercantile du XVIIIe siècle, où il faut produire, y compris dans son empire colonial, les denrées essentielles. Alors, les gens spéculent politiquement. L'Autriche devrait recevoir la plus grande partie des Balkans. La Russie aurait Constantinople, la seconde Rome, puisque Moscou est la troisième Rome, ainsi que l'Anatolie, éventuellement un petit-fils de Catherine II deviendrait le nouvel empereur grec d'Orient. Il s'agit évidemment de quelqu'un qui a été préparé pour ça, puisqu'on lui a donné comme prénom Constantin, fondateur de l'Empire byzantin. Je rappelle pour mémoire que Constantin est le frère d'Alexandre et de Nicolas, hein, et que son refus de régner provoquera l'épisode dit de décembre en 1822, lors de la succession entre Alexandre Ier et Nicolas Ier. Donc, en tout cas, Constantin avait été programmé en quelque sorte pour devenir empereur de Byzance. Ça, c'était la pensée de la grande Catherine. Quant à la France, elle aurait la Syrie et l'Égypte. Peut-être la Crète aussi, au passage. On ne prévoit rien pour les Anglais, puisque de toute façon, ils ont l'Inde. Voilà ce partage dont discutent éventuellement les chancelleries et dont les journalistes évoquent régulièrement dans diverses publications. D'ailleurs, c'est déjà passionnant qu'on regarde ces textes, les Russes commencent à faire du chantage aux Anglais. La grande Catherine insinue comme ça que peut-être qu'une armée russe en traversant l'Afghanistan pourrait arriver en Inde si les Anglais ne sont pas trop complaisants, manquent de complaisance envers les intérêts russes. Ça paraît complètement fou à l'époque, évidemment, parce qu'il y a des milliers de kilomètres à traverser pour aller de l'Empire russe, traverser l'Afghanistan et arriver jusqu'en Inde. Mais ça commence à inquiéter les Britanniques, cette histoire des Russes passant par l'Afghanistan. Alors, en même temps que l'Empire ottoman doit faire face à ses convoitises proclamées, c'est la presse européenne en parle tout le temps, l'Empire ottoman connaît aussi des graves problèmes intérieurs. L'islam ottoman, sunnite, est marqué par la prépondérance des grandes traditions mystiques qui s'expriment par le biais des confréries soufis, qui sont aussi d'importantes forces sociales parce qu'elles fournissent un certain nombre de services publics aux populations. Donc les confréries sont à la fois des instruments spirituels mais aussi des sources de bien-être matériel. Et ces confréries encadrent la société musulmane. Mais en islam, vous avez périodiquement des remontées de courants puritains et littéralistes. En fait, l'islam fonctionne un peu comme le protestantisme, c'est-à-dire que périodiquement, vous avez des bouffées de réveil, comme on dit chez les protestants, avec lecture littéraliste et puritaine des événements. Et la seconde moitié du XVIIIe siècle connaît justement une remontée du courant puritain et littéraliste ou fondamentaliste qui est représenté par un clerc musulman de la péninsule arabique, Mohammed ibn Abd-Wahhab, qui commence sa prédication aux alentours de 1740-1750. Il insiste sur l'injonction totale de l'imitation du prophète et sur l'insistance absolue sur l'unité divine. C'est pour ça que lui-même et ses compagnons ne s'appellent pas les Wahhabites. Ça, ce sont les termes qu'utilisent leurs adversaires. Eux, entre eux, ils s'appellent les unitaristes, les Tawhidiyyines, les gens du Tawhid de l'unité divine. Et toutes les formes du soufisme, le culte des saints, le chiisme est soumis à anathème puisque c'est considéré comme une association à Dieu, donc un péché contre Dieu. Toute cette forme d'islam traditionnel est considérée par ces puritains comme de la pure et simple idolâtrie. Abd al-Wahhab s'est installé, est un clerc originaire d'Arabie centrale, c'est-à-dire un territoire qui n'est que nominalement ottoman, puisqu'il irait l'idée farfelue d'aller au profond de l'Arabie gouverner pour obtenir quelques dates de redevances annuelles. Ça ne vaut pas grand-chose. Mais ce qui s'est passé, c'est que Abd al-Wahhab a passé une alliance avec un chef local d'une famille relativement secondaire, ça, il ne faut pas le dire, il est jusque-là, Mohammed ibn Saoud. Et c'est là où se construit l'alliance entre les Saoud et les Wahhabites. Et avec l'appui de ces forces locales, une véritable réforme religieuse est imposée de force. Tout ce qui est considéré comme innovation se trouve rejeté, comme les vices modernes que sont le tabac et le café. Une stricte orthodoxie islamique se trouve installée, imposée à des populations qui, entre nous soit dit, n'avait jusque-là qu'une connaissance fort superficielle et très superstitieuse de l'islam. Dans la logique wahhabite, tout musulman qui refuse de reconnaître la vraie doctrine ne peut être qu'un idolâtre que l'on combat. Donc, puisque c'est un idolâtre, on combat avec lui, contre lui, en pratiquant le jihad, la guerre sainte. Ce jihad wahhabite est d'autant plus attractif pour les bédouins que c'est l'occasion d'avoir le maximum de bédouins, de butins, pillant les biens des idolâtres. Et en particulier, les wahhabites vont lancer des grands raids sur l'Irak et ils vont saccager en 1802 la ville sainte chiite de Karbala et détruiront les sanctuaires chiites. Puis ensuite, nous aurons l'occasion d'y revenir, ils s'empareront des villes saintes de l'islam, de Médine et de la Mecque. Ces wahhabites rejettent l'autorité ottomane. En particulier, ils rejettent la fonction califale. Ce premier État wahhabite constitue donc un danger majeur pour un empire déjà paralysé par les autres menaces extérieures. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que les voyageurs européens n'ont qu'une connaissance superficielle du wahhabisme, parce que avant le début du XIXe siècle, aucun Européen n'atteindra une région habitée par des wahhabites, enfin détenue par les wahhabites. Donc, les voyageurs européens n'ont une connaissance que par les gens qui ont été là-bas, qui l'auront rapporté qu'eux. Et comme nous sommes à l'époque des Lumières, les Européens interprètent le wahhabisme comme une forme de déisme un peu absolu, mais finalement pas trop désagréable pour le déisme des Lumières européennes. Et donc, les premiers écrits européens sur les Saouds et sur les wahhabites sont plutôt positifs. Pour les musulmans sunnites de l'époque, le wahhabisme est une abomination qui se nuit d'une hérésie qui détruit le sens même de l'islam et la structuration sociale des confréries. Mais certains esprits lettrés sont tout à fait sensibles à l'exigence de pureté doctrinale et de puritanisme, des mœurs qu'exprime aussi le wahhabisme. Ce qui fait que le sultan Selim III, qui accède au pouvoir en 1789, doit ainsi faire face aux menaces intérieures et extérieures. Il est convaincu de la nécessité des réformes, en particulier dans le domaine militaire, mais il se heurte à la résistance des milieux conservateurs, exprimée en particulier dans la toute-puissante milice des Janissaires, qui a tout à perdre devant les réformes. D'ailleurs, ce sont les Janissaires qui vont le déposer en 1806 et conduiront ensuite à son assassinat. Alors que la France se trouve maintenant en pré-révolution, l'Autriche et la Russie entrent de nouveau en guerre contre les Ottomans en 1787. Leurs armées pénètrent dans les pays danubiens, ce qui remet en cause l'équilibre européen, la Prusse exigeant au nom de l'équilibre européen des compensations en Pologne si la Russie et l'Autriche s'agrandissent dans les Balkans. Mais surtout, ça embête les Britanniques. Alors, l'épisode est complexe du point de vue historique, mais en 1791, les Britanniques exercent une médiation armée entre les Russes et les Ottomans, ce qu'on appelle la crise d'Otchakov en Bulgarie, exigeant que les armées ottomanes, enfin russes, abandonnent les territoires occupés dans les Balkans. Il est certain l'intervention britannique en 1791 a pour première motivation le maintien de l'équilibre européen. Dans tout ça, la France est absente parce qu'elle fait la révolution. Et c'est justement parce que la France est absente que les Britanniques sont obligés d'intervenir. Jusque-là, c'était la France qui faisait le contrepoids. Les Britanniques viennent là pour l'équilibre européen. Mais ils sont déjà inquiets sur quelque chose d'autre, qui est que si les Russes ou d'autres Européens passent le Bosphore, ils touchent à la route des Indes. Or, maintenant, l'Inde est en grande partie conquise par les Britanniques. Elle est devenue vitale pour la Grande-Bretagne. Alors, au passage, faites attention. Qu'est-ce qui fait la richesse de l'Inde au XVIIIe siècle et son attractivité pour les Européens? C'est que l'Inde est encore, en 1790, le premier pays producteur de textiles au monde et le premier pays exportateur de textiles. Le contrôle du commerce de l'Inde, c'est le contrôle de l'exportation des Indiennes vers l'Europe. Les choses ont rapidement changé, puisque au début du XIXe siècle, Manchester va balayer les Indiennes d'Inde pour imposer ses propres Indiennes sur le marché européen. Ce qui, au passage, vous permet de vous rappeler ou de vous signaler que la révolution industrielle britannique qui a commencé par le textile à la fin du XVIIIe siècle est une révolution qui se passe en fait sur le phénomène de substitution aux importations. La Grande-Bretagne s'industrialise en captant le marché des Indiennes créé par les exportations de l'Inde au XVIIIe siècle en Europe. La paix de Jassy du 9 janvier 1792 amène l'Empire ottoman à reconnaître la perte de la Crimée, de l'annexion de la Crimée par la Russie, l'élargissement de la présence russe en mer Noire, tandis que la Russie évacue l'essentiel de ses conquêtes dans les régions danubiennes. Mais l'autre raison de la paix de Jassy, indépendamment du fait que les Ottomans avaient battu les Autrichiens au passage, ils n'avaient pas été si mauvais que ça, c'est que tout simplement l'Autriche, la Russie et la Prusse sont beaucoup plus intéressé par autre chose, qui est le second partage de la Pologne, 1791-1792, qui va ensuite s'enclencher, comme vous le savez tous, en 1792, avec les débuts de guerre contre la France révolutionnaire. Donc, à partir de 1792, même si le sort de l'Empire ottoman reste une donnée essentielle pour la géopolitique européenne, l'intention est accaparée par ce que les historiens vont appeler les guerres de la première coalition. 1792-1797, vous le savez tous, puisque vous connaissez tous les dates et le nombre des coalitions successives des guerres de la Révolution et de l'Empire. Donc, comme je l'ai expliqué, la logique de l'expansion européenne doit passer dans le maintien de l'équilibre européen. Mais en même temps, dans les Balkans, le discours qui est utilisé par les puissances européennes qui interviennent dans les Balkans est de libération des populations chrétiennes des Balkans de la domination musulmane. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays d'islam comme colonie? Ça, c'est un problème essentiel. La conquête du Nouveau Monde n'avait pas posé de problème puisqu'elle avait été, dans l'imaginaire européen, la poursuite de la Reconquista contre l'islam. Les Portugais et les Espagnols voyaient dans les Amérindiens des morts, des Arabes, des musulmans, et ils leur ont naturellement imposé le christianisme. Bon, les Français au Canada et en Nouvelle-France, jusqu'à la Louisiane, étaient aussi des défenseurs de l'Europe catholique, de la France catholique. C'était la France catholique qui exportait. Donc, on a fourni des flopées de missionnaires catholiques, souvent jésuites, qui avaient quelques problèmes, parce qu'à chaque fois qu'ils évangélisaient une tribu indienne au Canada, celle-ci mourait dans les deux ans de maladies diverses, puisque les Européens étaient des bombes biologiques pour les populations amérindienne. Donc c'était une espèce de cycle de Sisyphe. À chaque fois qu'on faisait des conversions, les convertis mouraient. Et quant à l'Angleterre, bah, vous savez, les pères pèlerins, les fondateurs de l'Amérique britannique, sont des puritains qui viennent au nom du christianisme. Autrement dit, la conquête du Nouveau Monde avait été une entreprise chrétienne, qu'elle soit protestante ou catholique. Bon, les catholiques essayaient en général de convertir les Indiens. Soyons honnêtes, les Britanniques, les protestants, les refoulaient ou les exterminaient. Mais ça dépendait aussi du contexte local. Toujours est-il que si vous faites la conquête d'un pays musulman, vous ne pouvez plus le faire. Vous n'avez aucune espérance de convertir les musulmans. Vous allez, en vous présentant en tant que puissance chrétienne, provoquer une résistance acharnée des populations musulmanes. Donc, la simple logique de la nouvelle expansion coloniale européenne est une logique de tolérance religieuse. Par définition, puisque vous faites de la conquête de territoires de gens qui n'ont pas votre religion, bah, pour tenir ces territoires, vous êtes obligé de tolérer ces gens-là. Donc, la conquête coloniale engendre la tolérance religieuse, ce qui n'était pas le cas en Amérique. Et ça vous explique toutes les ambiguïtés de la littérature des Lumières sur ces sujets. Si vous prenez le grand classique de la Bérénale sur l'histoire de la conquête européenne des deux Indes, qui est un texte d'une violence extrême de littérature anticoloniale, en première lecture, vous voyez, donc le texte est de Diderot, même si c'est signé par la Bérénale, hein, les grandes parties de Diderot. En première lecture, vous avez l'impression d'avoir un texte d'une violence antichrétienne et anticoloniale. Mais si vous lisez très attentivement, il y a déjà l'annonce d'un autre mode d'expansion qui est énoncé. Le problème est le suivant. Les Européens, pour des tas de raisons, ont traité les pays asiatiques orientaux de pays despotiques, en raffinant ensuite sous les définitions et sous-définitions en sciences politiques du despotisme, en particulier dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on a fait toute une théorie du despotisme militaire, c'est-à-dire le pouvoir qu'une force armée exerce sur un pays, etc. C'est assez intéressant comme modèle quand on compare à ce qu'on utilise aujourd'hui pour un certain nombre de pays musulmans. Donc, quand on voit ce que fait l'Angleterre en Inde, c'est du pur despotisme. Cette conquête coloniale de l'Inde, c'est du despotisme, à la rigueur du despotisme éclairé, mais du despotisme. C'est moralement non valable pour la société de la fin du XVIIIe siècle, qui, tout le monde sait, est une société extrêmement morale. Donc le débat idéologique se construit dans cette Europe de la Révolution française. Et les révolutionnaires français vont plus loin en se posant comme libérateur des peuples. Alors là, il faut comprendre le contexte. Le contexte, c'est que les révolutionnaires français sont en train de foutre par terre l'intégralité de l'ancien régime français et puis ensuite européen. Il n'y a aucune raison qu'ils s'arrêtent. Ils sont en train de construire un monde nouveau d'abord en France, ce qu'on appelle la régénération de la France, et puis à partir de 1795, nous aurons l'occasion d'en reparler rapidement, les armées révolutionnaires envahissent les pays voisins et construisent ce qu'on appelle les républiques sœurs, qui sont soumises à la République Mauban, qui est la France révolutionnaire. Et le moment essentiel suivant est 1797. Comme vous le savez tous, 1796, c'est le début de la célèbre campagne d'Italie. Et en 1797, après avoir battu les Autrichiens, l'armée française déboule sur l'Adriatique, en prenant Venise par coup de force. Et du coup, les armées françaises ensuite occupent les îles Ioniennes, Corfou, Zante, Céphalonie, etc. Comme je l'avais montré jadis dans un article qui m'avait beaucoup amusé il y a plus d'une trentaine, une bonne trentaine d'années, la réaction des pachas ottomans au déboulé des armées françaises sur l'Adriatique. Ben, le premier à réagir, c'est le bey du Magne, le Magne étant un territoire grec avec un chef grec, mais dans le système ottoman, c'est le bey du Magne. Et il envoie une lettre de félicitations à qui ? Il n'y a pas de protocole pour une république. On essaye désespérément de savoir comment on s'adresse à une république. Alors c'est vrai qu'on a retrouvé dans les archives, probablement, les proclamations du comité de salut public que Robespierre avait fait traduire en turc, arabe et persan, ce qui avait provoqué de sérieuses migraines pour les Drogman, puisque les mots liberté, égalité et fraternité n'existaient pas dans les langues en question. Donc, le bey du Maine salue le chef militaire français, le général français, le Sarir Askar en arabe, enfin en turc, de la grande nation française, parce que comme les Ottomans sont des gens polis, ils disent pas la nation française, ils disent la grande nation française. Politesse ottomane oblige. Le second pacha qui envoie une lettre, c'est le pacha de Bosnie, et il utilise aussi l'expression au général de la grande nation française. Alors la première fois, Bonaparte, il l'a pas tiqué. La seconde fois, il dit « c'est quand même quelque chose ». Et il fait écrire dans le journal de l'armée d'Italie « Ah, ces Turcs, ils ont raison de nous appeler la grande nation ». Et puis le troisième pacha du secteur, c'est le pacha de Ali Pacha de Tepedelen, des pachas des pires, le pire des pachas selon les Français. On aura l'occasion d'y parler, de reparler d'Ali Pacha de Janina, que vous connaissez tous, puisque c'est un personnage du comte de Monte Cristo. Donc lui aussi, il envoie une salutation au général de la grande nation française. Alors là, Bonaparte, c'est pas possible. Il envoie ça au directoire, et le directoire dit « Ah, les Turcs nous appellent la grande nation, combien ils ont raison ?» Et c'est là l'origine, semble-t-il, de l'expression « la grande nation pour la France ». Même s'il y a d'autres origines aussi du terme, il est incontestable que c'est l'interaction entre les lettres des pachas ottomans, l'armée d'Italie et le directoire qui a fait naître l'expression « la grande nation ». Mais justement, en Italie, en 1797, Bonaparte réfléchit d'abord à faire la conquête des Balkans. Et il envisage de soulèvements des Grecs qui accompagneraient son expansion balkanique. C'est d'autant plus facile que les Grecs, ils les connaissent bien, puisqu'il y a des Grecs du Magne qui se sont installés en Corse à Cargèse, et que ce sont les voisins des Bonaparte en Corse. Et donc, il entre en contact avec les Grecs du Magne, ce qu'on appelle les Magnotes. Et puis, il renonce, et comme le général Bessex vient le voir pour discuter des affaires concernant la rive gauche du Rhin, commence à discuter avec Bessex d'une possibilité de faire une expédition en Égypte, qui s'inscrit dans la continuité, puisque la victoire de Bonaparte et le traité de Campo Formio a mis fin à la guerre de la première coalition. La géopolitique est inflexible. On revient aux configurations politiques d'avant la première, c'est-à-dire le sort de l'Empire ottoman. Et ce que Bonaparte, de Sexe et quelques autres qui entrent dans la discussion réfléchissent, c'est le fait que si la France s'empare de l'Égypte, elle compense les pertes de ses colonies que les Britanniques sont en train de lui avaler dans les Caraïbes. Et à partir d'Égypte, on peut sauter sur l'Inde, où on se présentera comme libérateur des hindous contre le despotisme britannique. Et au passage, on va annoncer aux musulmans qu'on les libère de la tutelle ottomane. Donc c'est ça qui se conçoit dans le dernier semestre de 1797. Le paradoxe d'une entreprise qui se veut à la fois coloniale et libératrice. Et pour cela, Bonaparte va commencer à utiliser un terme nouveau qui succède à celui qui était le mot d'ordre de la Révolution française. Le mot d'ordre de la Révolution française, c'était « régénération ». Et le terme que Bonaparte commence à utiliser en 1798, c'est « civilisation ». Et si même il y a quelques décennies, Émile Benveniste, le grand linguiste, avait montré de façon admirable comment la langue française de la fin du XVIIIe siècle se construisait en se fixant nation, qui exprime l'action de faire. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt en habilité dans notre langue du début du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on fonctionne en employé à l'habilité, par exemple. Capacité de faire quelque chose, tandis qu'à la fin du XVIIIe siècle, ce n'est pas la capacité, mais la volonté de faire quelque chose que traduit la langue française. Civilisation comprend tout aussi bien un mode d'organisation de la société fondé sur l'égalité des statuts de ses membres, la mise en place de l'État moderne, et le développement des grandes infrastructures de nature économique. Alors, nous allons faire la pause. Vous pouvez voir cette peinture pompière qui doit dater de la Troisième République de Bonaparte en Égypte. Vous pouvez aussi souvenir que Patrice Chéreau avait fait une belle incarnation de Bonaparte en Égypte dans le film de Youssef Chahine. Adieu Bonaparte. Donc 5 minutes de pause et nous reprenons les hostilités orientales.